Je vous invite à tourner dans le livre des Lamentations, Lamentations de Jérémie. Le livre, c'est un livre qui est une série de chants funèbres écrits dans le contexte de l'invasion babylonienne et de la destruction de Jérusalem. Et à travers les versets de ce livre, nous pouvons voir les terribles souffrances que les habitants de la ville ont endurées de la part de leurs ennemis. Et pourtant, au milieu de toute la douleur et de la tourmente qu'ils vivaient, Dieu avait envoyé son serviteur dans Jérusalem pour rapporter ses paroles et faire honneur à son nom. Et on croit que Jérémie est l'auteur du livre des Lamentations. Il était connu pour être le prophète qui pleure. Et une étude sur sa vie révèle un homme dont le cœur était envahi par la tristesse, par une tristesse sans fin, et sujet à connaître des périodes de profonde dépression. Alors avant de poursuivre, je vous invite à prier. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Et encore une fois ce matin, conscient que nous plongeons nos regards dans ta parole et que nous ouvrons nos oreilles à l'écoute de ce que le Saint-Esprit a à dire à ton Église, nous demandons, Seigneur, d'ouvrir largement nos cœurs afin que nous puissions recevoir la portion que tu en réserves pour chacun de nous. Seigneur, tu connais les problèmes, les difficultés, les épreuves que chacun d'entre nous, sans exception, vit ce matin. Seigneur, nous savons que nous ne nous adressons pas à un petit Dieu, mais nous nous adressons au Dieu de l'impossible. Et tu peux encore faire l'impossible aujourd'hui. Seigneur, ce matin, c'est par la foi que nous te demandons de nous éclairer à travers ta parole et que nous te demandons ta bénédiction. Nous te demandons non seulement ta présence parce que tu es là au milieu de nous, mais nous te demandons aussi d'agir avec puissance dans la vie de chaque personne et de répondre aux besoins de chacun, parce que tu nous dis que quand nous te demandons des choses, Seigneur, nous allons te recevoir, et c'est une promesse dans ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur, ainsi que ta parole. Et c'est en Jésus-Christ que je t'ai prié. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Permettez-moi de vous donner quelques informations sur cet homme de Dieu d'une grande valeur, Jérémie chapitre 1. Vous pouvez aller dans Jérémie chapitre 1, là on est dans Lamentations. Jérémie chapitre 1, dépendant si vous avez le français courant c'est avant les psaumes, mais et pour ceux qui ont la seconde, les autres versions, en principe c'est après les psaumes. Alors, à peu près comme tous les prophètes, Jérémie, premièrement, a reçu un appel au ministère qu'il ne désirait pas. C'est la première chose. Le Seigneur va lui dire, les versets 5 à 8, « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais établi à être mon porte-parole auprès des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant, je suis trop jeune. » Mais le Seigneur me répliqua, « Ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Deuxièmement, il a reçu un appel pour prêcher que sur le jugement. Ça, c'est une carrière que personne ne va avoir. Versets 9 et 10. « L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. » Hey, frères et sœurs, c'est une grâce particulière, avez-vous? Moi, c'est la première fois que j'ai lu ça souvent, ce verset-là, et je réalise que Dieu a touché la bouche de Jérémie avec sa main, quoi. Belle expression, n'est-ce pas? Dieu touche notre cœur par sa parole, mais ici, Dieu va toucher la bouche de Jérémie avec sa main. Et il va lui dire, « C'est toi qui prononceras mes paroles. Regarde aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. » Troisièmement, regardez Jérémie 16. Jérémie 16 et versets 1 à 13. On va lire quelques versets pour commencer, et après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Jérémie 16, versets 1 à 13, pour être dans le contexte. « Il lui fut interdit de se marier afin de pouvoir se consacrer davantage à son ministère de proclamation du jugement imminent de Dieu. » Les versets 1 à 13, verset 1 et suivant. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne dois pas te marier, me dit-il, et avoir des fils et des filles dans ce pays. Voici en effet ce que j'annonce, moi, le Seigneur, au sujet des fils et des filles qui naîtront dans ce pays, ainsi que de leur père et de leur mère. Ils connaîtront une mort cruelle. Il n'y aura personne pour les pleurer ou les enterrer, mais ils resteront comme du fumier à la surface du sol. La guerre et la famine auront raison d'eux, et leurs cadavres serviront de pâture aux vautours et aux chacals. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés ce matin, mais ça va être plus encourageant après. Moi, ça m'a encouragé le restant du message, mais on est simplement en train de regarder dans quel contexte Jérémie est appelé à exercer son ministère. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison mortuaire, n'assiste pas aux funérailles, n'apporte à personne tes condoléances, car je retire à ce peuple mon amitié, c'est-à-dire ma paix, ma bonté et ma miséricorde, dit l'Éternel. Dans ce pays riche ou pauvre, mourront sans personne pour les enterrer, les pleurer ou exprimer de la tristesse par des entailles sur le corps ou des cheveux tondus. On va recommencer ça. Dans ce pays riche ou pauvre, mourront, les riches et les pauvres, sans que personne soit là pour les enterrer, pour les pleurer ou exprimer de la tristesse, parce qu'on se faisait des entailles sur le corps. On va voir un peu plus loin que les Israélites, à ce moment-là, avaient adopté, finalement, les coutumes païennes, alors qu'ils se tondaient les cheveux et qu'ils se faisaient des entailles sur le corps. Rappelez-vous les 400 prophètes avec Élie, qui appelaient leur Dieu, qui ne venait pas, ils se faisaient des entailles sur le corps pour espérer qu'ils reviendraient plus vite. Il n'y aura personne pour partager le pain avec la famille en deuil ou la consoler. Personne non plus pour offrir la coupe de consolation à ceux qui auront perdu un père ou une mère. N'entre pas non plus dans une maison où l'on fait un festin. Ne t'assieds pas pour manger et boire avec les convives. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je vais mettre fin au bruit de fête, aux cris de joie et aux chants des jeunes mariés. Et vous resterez en vie pour voir cela. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, il est possible qu'on te demande pour quelle raison l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Qu'avons-nous fait de mal? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Alors tu leur répondras ceci. C'est parce que vos parents m'ont abandonné, dit l'Éternel, et qu'ils se sont attachés à des dieux étrangers pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Ils m'ont abandonné et ils n'ont pas observé ma loi. Quant à vous, vous agissez plus mal encore que vos parents. Chacun de vous persévère dans sa méchanceté et dans son stupide entêtement sans écouter ce que je dis. Vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur. C'est pourquoi je vais vous chasser de ce pays dans un autre qui ne représente rien pour vous, pas plus que pour vos parents. Là-bas, jour et nuit, vous rendrez un culte à ces dieux étrangers parce que moi, je ne vous accorderai aucune grâce. C'est terrible d'entendre ça, cette parole du Seigneur, car moi, un Dieu qui est gracieux, qui veut distribuer ses grâces à l'infini à ses enfants, on entend de sa bouche, « Je ne vous accorderai plus aucune grâce. » Il ne faut donc pas chercher à comprendre, frères et sœurs, pourquoi, avec un tel message, Jérémie était habitué à vivre dans la solitude. C'était un homme, quatrièmement, un homme dont le cœur était envahi d'une tristesse profonde et il pleurait ouvertement sur les péchés de son peuple. Jérémie, chapitre 8, verset 18. Jérémie, chapitre 9, verset 1. Il dit, « J'ai le cœur serré. Il n'y a pas de remède pour guérir mon chagrin. Ah, comme je voudrais que ma tête soit remplie d'eau et mes yeux des fontaines de larmes. Je passerai mes jours et mes nuits à pleurer les morts de mon peuple. » Cinquièmement, il a supporté la dépression à cause de son message qui n'a pas été entendu pendant un temps passablement long. Il en est même arrivé au point où il a essayé de quitter son ministère. Jérémie, chapitre 20, verset 9, pour ceux qui ont leur Bible. Je dis, je ne ferai plus mention de lui, il parle de Dieu. Je ne parlerai plus de la part de Dieu, mais il y a au plus profond de mon cœur comme un feu dévorant. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas, dit Jérémie. Sa douleur, elle est compréhensible, frères et sœurs. Les chapitres 32 et 33 du livre de Jérémie nous apprennent que les gens de Juda n'avaient fait que ce qui déplaisait au Seigneur, verset 30. Et au lieu de se tourner vers Dieu, ils lui ont tourné le dos. Ils avaient placé leur abominable idole dans le temple qui était consacré au Seigneur. Ils avaient installé des lieux sacrés pour le dieu Baal dans la vallée de Hinnom, afin d'y offrir en sacrifice leurs fils et leurs filles. En gros, ils avaient adopté la façon de vivre des nations païennes qui vivaient près d'eux. Et nous pouvons voir ça dans les versets 28 à 35 dans ces chapitres. À cause de leurs péchés, Dieu s'apprête à faire tomber son jugement sur le peuple. C'est dans ce contexte que Dieu va envoyer Jérémie prêcher sa parole un peuple qui ne voulait pas entendre son message. Eh bien, Jérémie a ma sympathie et mes condoléances, parce que ça ne devait pas être facile. Il avait tout le monde à dos, quoi. Tout le monde à dos. Jérémie est envoyé vers un peuple qui non seulement va faire la sourde oreille à tous ses appels à la repentance, mais vers un peuple qui se complaisait tellement dans ses péchés qu'il n'avait aucun désir d'entendre quelque chose sur Dieu ou sur ce que l'homme de Dieu avait à leur dire. Jérémie, écoutez bien, Jérémie avait prêché pendant 50 ans dans cette ambiance et nous ne trouvons aucun passage qui mentionne que suite à son message, une seule personne s'est convertie. Ouais. Alors, chers amis, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, si vous voyez que les cœurs sont endurcis pour recevoir la parole du Seigneur, eh bien, prenez courage parce que c'est un contexte qui ressemble étrangement au contexte de Jérémie aujourd'hui. Ouais. Prenez courage. Et si vous amenez une seule personne au Seigneur, mettez-vous à genoux puis rendez-lui grâce parce qu'il aura fait plus avec vous que ce qu'il aura permis avec Jérémie. Il aura fait plus avec vous que ce qu'il aura fait avec Noé, qui a prêché pendant 120 ans la repentance et qui n'a pas su amener personne en dehors de sa famille au Seigneur. Et là, vous pourrez dire, quelle grâce, Seigneur, une personne, quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur, que tu me fais. Une grâce que tu n'as pas faite à Noé ni à Jérémie. Quelle grâce, Seigneur. Oui. Ouais. Sixièmement, il est emprisonné par le roi Sédécias parce que le roi n'a pas approuvé la prédication de Jérémie. Jérémie 32, les versets 2 à 3. Alors, il est donc compréhensible que Jérémie n'était pas l'homme le plus populaire en Israël. Il sera arrêté et jeté en prison par le roi de Juda, Sédécias, pour avoir prêché la vérité. Malheureusement, nous pouvons penser que ces jours risquent de se répéter à notre époque de grande décadence dans l'Église de Jésus-Christ et dans le monde. Frères et sœurs, le message de Jésus-Christ aujourd'hui, il n'est pas populaire. Il n'est pas plus populaire aujourd'hui qu'il était à l'époque de Jérémie. Et on ne retrouve pas seulement le péché dans le monde, mais le péché est aussi entré dans l'Église. Et dans nos Églises, il y a un comportement qui ressemble étrangement au comportement que nous voyons dans le monde, et Dieu s'apprête à porter un jugement. Il faut être aveugle pour ne pas voir que le jugement de Dieu s'en vient. Dieu ne peut pas continuer à tolérer ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans son Église. L'apôtre Pierre nous dit qu'avant de faire le ménage à l'extérieur, Dieu va d'abord régler les problèmes dans son Église. Le Seigneur dit qu'à la fin des temps, ce sera comme à l'époque de Noé, où les gens cherchaient le plaisir et à s'amuser. Et le message de Noé ne portait pas de fruits parce que les gens ne voulaient rien savoir de son message. Il en est de même aujourd'hui, les gens préfèrent vivre dans le péché que de bénéficier de la grâce de Dieu. Et dans le passage de Jérémie que nous voyons ce matin, on est exactement dans le même contexte. Quelle foi et quel courage Jérémie avait eu en son temps pour continuer à prêcher ce message au peuple d'Israël et au peuple de Juda pour les ramener dans les voies de Dieu alors qu'il était rejeté. Septièmement, pourtant après la chute de Jérusalem où plusieurs furent tués ou amenés en captivité, le prophète ne se réjouira pas et il ne commencera pas à leur faire leur morale en leur disant « Je vous l'avais bien dit, hein? » Non. Au lieu de cela, nous pouvons lire dans les 5 chapitres du livre des Lamentations que le prophète Jérémie avait le cœur brisé et qu'il souffrait avec son peuple. Après avoir enduré une vie comme ceci, après avoir été rejeté, détesté, moqué, emprisonné et ignoré, après avoir vu sa Jérusalem bien-aimée saccagée, profanée et détruite, après avoir vécu l'horreur de la guerre, la brutalité de l'ennemi et les affres de la faim, Jérémie était encore capable de se tenir debout dans les décombres de la ville à travers les corps des morts qui jonchaient le sol et hausser la voix en louant Dieu pour sa grande fidélité à l'égard de son peuple. Comment cela était-il possible? Comment Jérémie avait-il pu tenir le coup malgré les nombreuses épreuves et les nombreux problèmes qu'il avait vécu tout au long de son ministère? Son secret, frères et sœurs, c'est que Jérémie avait une juste compréhension de la réalité de qui était Dieu. Est-ce que vous avez une juste réalité de qui est Dieu, frères et sœurs? Ou si vous êtes façonné un Dieu à votre façon, est-ce que vous avez une juste réalité de qui est Dieu? Oui. Il savait que peu importe si les choses allaient bien ou si tout s'effondrait, Dieu serait toujours Dieu et que Dieu serait éternellement fidèle à son peuple. Il dit au chapitre 3, versets 21-26 du livre des Lamentations. Quand on peut aller dans le livre des Lamentations, on va y rester. Chapitre 3, versets 21-26. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Oh, chers amis, quel beau verset, quel beau verset. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Est-ce qu'on peut entendre un amen là-dessus, hein? Oui. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel! Je le dis, l'Éternel est mon trésor, mon partage. Voilà pourquoi je veux espérer en lui. Frères et sœurs, avez-vous une juste réalité de qui est Dieu dans vos vies? Oui. Malgré tout ce que Jérémie a vécu, il était capable de prononcer ces paroles. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'entendre en silence le secours, la délivrance de l'Éternel. Jérémie était encore capable de garder espoir lorsqu'il faisait face à une situation désespérée parce qu'il croyait en la fidélité de son grand Dieu. Oui, la fidélité, c'est un trait de caractère du Seigneur, la fidélité. Dans l'Ancien Testament, le mot fidélité parle de fermeté, de constance et de stabilité. Ce mot décrit Dieu comme étant celui en qui nous pouvons avoir confiance. Et nous pouvons être sûrs, frères et sœurs, que face aux tempêtes, aux épreuves et aux vallées de la vie, les vallées obscures de la vie que nous devons affronter, Dieu se montrera toujours ferme et fidèle envers nous. Pour le dire tout simplement, vous pouvez compter sur le Seigneur, je peux compter sur le Seigneur. Et frères et sœurs, comme Jérémie, nous traversons tous des moments où nous avons un moment... Ça fait bizarre, tous des moments où nous avons un moment... penser que tout s'effondrerait dans nos vies. Mais quand nous traversons ces moments difficiles, nous avons aussi besoin d'avoir la certitude que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Et c'est une reconstruction de la pensée qu'on a besoin d'avoir à ce niveau-là sur la fidélité de Dieu, parce qu'il y a tellement de monde au cours de notre vie qui nous ont dit qu'ils nous seraient toujours fidèles, et qui finalement nous ont trahis. Mais le Seigneur ne nous trahira pas parce que sa fidélité, je le répète, ça fait partie, c'est un trait de caractère de la personne de Dieu. Et heureusement que la Bible nous donne une preuve accablante de la fidélité immuable de notre grand Dieu, et ce, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je voudrais m'arrêter sur ce passage ce matin, examiner trois mots importants dans ces versets qui nous disent pourquoi Jérémie a pu proclamer « Ah, que ta fidélité est grande! » Et remarquez ce que ces mots nous enseignent au sujet de la grande fidélité sans faille du Dieu, du croyant. Alors, on va, premièrement, verset 22, la première partie du verset 22, chapitre 3. Le mot miséricorde est traduit plus de 30 fois dans l'Ancien Testament par le mot bonté. C'est un mot qui renferme les mots amour, grâce, miséricorde, dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui renferme les mots grâce, amour, miséricorde, fidélité, bonté, attachement. Et ce mot met en lumière le fait que Dieu est en amour avec les êtres humains. Quand on dit que Dieu est amour, là, c'est que Dieu est en amour avec les êtres humains, frères et sœurs. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Quand on est en amour avec quelqu'un, cette personne est constamment dans nos pensées. Dieu est en amour avec vous, Dieu est en amour avec moi. On est constamment dans les pensées de Dieu. Et Dieu n'a pas commencé un jour à nous aimer, et il ne s'arrêtera pas de nous aimer, parce que Dieu dit à Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel. » Est-ce que vous trouvez ça extraordinaire? On n'est même pas capable, avec notre intelligence, de comprendre ça. Que Dieu, qui est saint, trois fois saint, soit en amour avec des pécheurs sauvés par grâce. On n'est pas capable de comprendre ça, frères et sœurs. Ça nous dépasse. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit « Je suis en amour avec toi », ça veut rien dire et ça veut tout dire. Ouais. Ça veut rien dire, Dieu est en amour avec les êtres humains. Nous trouvons son équivalent dans le Nouveau Testament par l'amour de Dieu et Dieu dans sa grâce. Jérémie semblait se souvenir que c'est par peu grâce que Dieu avait libéré les Israélites de l'esclavage dont ils étaient l'objet en Égypte. Il semblait se rappeler aussi, Jérémie, que c'est aussi dans sa grâce que Dieu avait continué à se garder un peuple racheté malgré leur chute et malgré leur mauvaise conduite. Et frères et sœurs, malgré nos chutes, malgré nos mauvaises conduites, l'amour de Dieu ne diminue pas pour nous, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il nous approuve. Le cœur de Dieu est attristé. Et il y a des limites aussi. Mais, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que Dieu nous aime moins. Il est attristé. Je vais répéter ce que j'ai dit la semaine passée. Quand il voit son enfant qui marche dans la vérité, eh bien, le cœur de Dieu ne l'aime pas plus, mais le cœur de Dieu est dans la joie. Voilà. C'est ça la différence. Il n'y a pas de degré d'intensité dans l'amour de Dieu. Dieu nous aime tous d'un amour égal, et son amour ne diminue pas et n'augmente pas en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, frères et sœurs. Dieu est triste quand il nous voit désobéir, et Dieu se réjouit quand il voit ses enfants, marcher dans la vérité. Frères et sœurs, le premier de ces trois mots que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est le suivant. Dans sa grâce, c'est peut-être le seul mot qu'on va avoir le temps de regarder. Dans sa grâce, Dieu nous sauve. Dans sa grâce, Dieu nous sauve, frères et sœurs. Amen. Ouais. Dans sa grâce, Dieu vous a permis d'entendre l'Évangile. Dans sa grâce, il a permis à des gens de naître dans l'Église. Dans sa grâce, il a permis à des gens qui ont vécu dans le monde, qui ont baigné dans le monde, d'entendre l'Évangile et de venir à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Voilà ce que Paul dit. Il n'y a que la grâce de Dieu qui a pu nous toucher dans notre condition perdue. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et à cause de vos péchés, dit l'apôtre Paul. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes qui désobéissent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature et nous accomplissions ce que voulait notre corps et notre esprit. À cause de ce que nous étions naturellement, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Ouais. Mais dans sa grâce, frères et sœurs, Dieu vous a permis, une fois, d'entendre l'Évangile qui vous amène à la connaissance de Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa grâce infinie, vous permet dimanche après dimanche d'entendre l'Évangile de Jésus-Christ. Et encore dans sa grâce illimitée, il vous permet jour après jour de plonger vos yeux dans sa parole, jour après jour. Quelle grâce, n'est-ce pas? Alors que dans certaines parties du monde, Dieu veut faire grâce et il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Jamais. 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 Et ça, c'est la mission de l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il faut arrêter de prier pour envoyer des missionnaires en Afrique, parce que c'est l'Afrique qui nous envoie des missionnaires pour évangéliser la Belgique. On a besoin de faire en sorte que nos étudiants à la faculté, à l'Institut biblique, gardent les pieds en Belgique pour évangéliser la Belgique, parce que la Belgique, c'est une terre encore plus missionnaire que l'Afrique. Oui. C'est encore une terre missionnaire plus que l'Afrique. Ouais. Et profitons-en, parce que les Belges, ils sont très polis pour entendre l'Évangile. Même s'ils ne veulent pas l'entendre, ils sont très polis. Certains me disaient, c'est bien plus facile au Québec, hein? vous avez les États-Unis à côté. Là, au Québec, on mange des coups de pied dans le derrière et des claques dans la figure quand on prononce le nom de Jésus aujourd'hui. Ouais. En Belgique, les Belges sont bien éduqués, ils te regardent, ils t'écoutent, avec un beau sourire, et après ils te disent, ben non, merci. Bon, ouais, ils te remercient, quoi. Ils te remercient qu'ils ne sont pas intéressants. Ben intéressés, profitons-en. Profitons-en. Ouais. Parce qu'on ne vit pas dans un monde post-chrétien, là. On vit dans un monde anti-chrétien, frères et sœurs. Nous ne pouvions pas aller à Dieu, alors Dieu est venu à nous. Il est venu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés. Maintenant que vous avez été racheté un si grand prix, dit Paul, ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas cherché à se faire, il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire l'égal de Dieu de force. Au contraire, il a lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Chers amis, on ne garde jamais l'exemple, on ne prend jamais l'exemple sur un homme. On prend l'exemple sur la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce qu'il a prêché, ce qu'il a enseigné, c'est ce qu'il met en pratique. Ou je dirais que ce qu'il met en pratique, c'est ce qu'il a enseigné. Et c'est important pour nous, c'est notre modèle. Et c'est ce que Paul dit dans Philippiens. Il est venu dans la personne du Seigneur, du Saint-Esprit pour nous attirer vers Dieu, afin que nous puissions être sauvés. Jésus a dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider, le Consolateur, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste, et au sujet du jugement de Dieu, parce qu'il ne croit pas en moi, au sujet de ce qui est juste, parce que je vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. » Au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Frères et sœurs, il y a des gens qui disent souvent, mais j'aurais aimé ça, moi, vivre avec à l'époque de Jésus, puis rencontrer Jésus. Ouais. J'aurais pu être à ses côtés, j'aurais pu y toucher. Frères et sœurs, Jésus est encore plus proche aujourd'hui qu'il était avec ses disciples. Ses disciples ne pouvaient se contenter d'être avec Jésus seulement à ses côtés. Maintenant, le Seigneur Jésus, il n'est pas à nos côtés, il est à l'intérieur de nous, par son esprit. Il est encore plus proche aujourd'hui qu'il était avec ses disciples. Alors, notre relation devrait être encore beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle n'était avec les disciples. Ouais. Je t'emmène à ça. Oui, hein? Ouais. Ouais. Dans sa grâce, Dieu nous protège, Dieu nous garde. C'est le deuxième point. La grâce ne nous a pas seulement touchés quand nous étions perdus dans le péché, mais nous protège en tant que personne sauvée. Il peut nous arriver de chuter, frères et sœurs. Il peut nous arriver de nous éloigner de Dieu au point où il n'est pas le premier dans nos vies. Et si notre salut dépendait du seul fait de demeurer fidèle à Dieu, il n'y a personne qui pourrait être sauvé. Personne. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par cette même grâce que nous sommes gardés. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a dit l'apôtre Pierre, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, c'est-à-dire nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous avons ainsi une espérance vivante et nous pouvons nous réjouir des biens que Dieu réserve aux siens. Frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir des biens que Dieu réserve aux siens. Oui. Il y a des gens, je leur demande des fois, ils me demandent, ça va être long au ciel, hein? Qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Ce qu'on va faire au ciel, ça va être long, hein? Il y en a qui pensent qu'ils vont avoir les bras croisés pendant toute l'éternité, hein? Enfin, c'est pas ça que la Bible dit, hein? D'abord, on va régner avec Christ, hein? Déjà au point de départ, hein? On va régner avec lui. Alors, on va sûrement régner sur quelque chose, hein? Si on règne, hein? Ouais. Un roi qui règne sur rien, c'est une vie méchante, une méchante vie qui est plate, hein? Qui est ennuyante, hein? Ouais. On nous dit qu'on va régner avec lui, qu'on va voir s'asseoir sur son trône. Hein? Il n'est pas égoïste comme un roi, il va nous permettre de s'asseoir sur son trône, frères et sœurs. Et je suis convaincu que le Dieu qui ne manque pas d'imagination et dont l'imagination est à l'infini, je suis convaincu qu'il nous réserve de belles choses pour l'éternité et qu'on ne sera pas déçus. Déjà d'abord, on va être tous invités à une table. On va être invités, comme quelqu'un l'a dit dans sa prière tantôt, à participer aux noces de l'agneau. Ouais. Je ne sais pas s'il va y avoir du vin sur la table, mais on peut tout de suite penser que le vin va être aussi bonne qualité qu'aux noces de Cana, hein? Parce que c'est le Seigneur qui va l'avoir fabriqué. On peut s'imaginer les mets sur la table, ça va être extraordinaire, quoi. On va pouvoir rencontrer tous ceux qui sont morts par la foi avant nous. Ouais. À tous ces héros qui sont dans la parole, à tous ceux qui ont souffert pour l'Évangile. On pourrait leur donner la main, frères et sœurs. On en a parlé un peu la semaine passée, quoi. Ouais. Extraordinaire. Ah, le Seigneur, il déborde. Le Seigneur est plein de surprises, frères et sœurs. Ouais. Quand la conduite d'un homme lui plaît, l'Éternel lui donne d'avancer avec assurance dans la vie. Si un homme vient à tomber, et c'est le psalmiste qui dit ça dans le psaume 37, si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. Tous les jours, il est compatissant et il prête généreusement, et ses enfants sont bénis. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. David a fait cette prière. Ô Dieu, garde-moi, c'est à toi que j'ai recours. Le psaume 16. Le verbe garder que David utilise dans ce verset est synonyme de préserver. Préserve-moi, Seigneur, qui est plus particulièrement associé avec l'idée suivante. Seigneur, mets une barrière autour de moi, un mur de protection. Garde-moi, Seigneur, et conduis-moi. Observe chacun de mes mouvements, mes allées et venues, Seigneur. David croyait vraiment que Dieu gardait ceux qui sont fidèles. Et l'Écriture nous montre à de nombreuses reprises que David a été gardé et préservé tout au long de sa marche avec Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu aime plus David que vous? Non. La seule différence qu'il peut avoir peut-être avec nous, c'est que David marchait dans les voies du Seigneur. David était quelqu'un de fidèle. Et il n'avait pas peur, il pouvait compter sur les promesses de Dieu. Et Dieu l'a sorti de tellement de pétrins. Une grande partie de sa vie, il a dû sauver pour protéger, pour éviter que Saül le tue, quoi. Ouais. Et pourtant, Dieu, à chaque fois, Dieu, par toutes sortes de situations, en provoquant des situations diverses, Dieu sortait son serviteur du pétrin. Et c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Si on a la conviction que Dieu aime autant David que nous, si on marche dans les voies de Dieu comme David a marché, vous pouvez être certain de cette chose, peu importe le pétrin dans lequel vous vous trouvez, peu importe les problèmes que vous vivez, peu importe la situation si désespérante qui peut vous paraître ce matin, Dieu est là pour vous tendre la main, nous dit la parole, et pour vous faire avancer, comme il l'a fait pour David, et vous sortir de ce pétrin. On vous dit amen à ça. Oui, oui. David croyait vraiment que Dieu gardait ceux qui sont fidèles, et l'Écriture nous montre à de nombreuses reprises, que David a été gardé et préservé tout au long de sa marche avec Dieu. Cet homme béni a déclaré ceci, psaume 121, verset 1 à 8. Vous pouvez tourner, on va terminer presque le message avec ça. Je n'ai pas regardé dans la Louis II ce matin, j'ai travaillé uniquement avec la français courant. Je ne sais pas si autant de fois le mot garder est préservé. Enfin, vous les contrer dans votre Bible. Mais dans ma français courant, dans les versets 1 à 8, à quatre reprises, il prononce le mot garder et une fois le verbe préserver. Il dit ceci, « Je regarde vers les montagnes, y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qu'il te préserve, premièrement, des faux pas, qu'il te garde, premièrement, sans relâche, première fois. Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir, il te gardera, il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. » Frères et sœurs, Dieu est à nos côtés comme une ombre protectrice. Frères et sœurs, il vous gardera comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas ou la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie une deuxième fois. Il te gardera de tout mal encore une fois. Oui, le Seigneur te gardera une dernière fois de ton départ à ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Frères et sœurs, on a un Dieu non seulement qui se plaît à nous sauver, mais on a un Dieu qui se plaît à nous protéger, qui se plaît à nous préserver. Et quand on tombe, qui tend le bras pour nous ramener. Quel Dieu nous servons, frères et sœurs? Un Dieu qui est jamais fatigué. Un Dieu qui vous regarde tomber, qui dira, ah, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis pas en forme, quoi. J'ai pas fait mes exercices, j'ai pas fait ma course. Dieu a toujours la main tendue pour nous sortir du pétrin, frères et sœurs. Et le mot hébreu pour préserver apparaît également au verset 3 de ce psaume. Une fois de plus, David parle de la protection divine comme d'une barrière, d'un mur surnaturel de protection. Il nous assure, Dieu garde les yeux sur toi partout où tu vas. Oui. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que c'est une réalité, ça, pour vous? Quand on dit que ce qui a aidé Jérémie à terminer son ministère, c'est qu'il avait une juste réalité de qui est Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que peu importe ce que vous faites, peu importe où vous êtes, Dieu, il n'y a rien qui échappe à l'œil de Dieu. Ouais. Est-ce que vous... Ça, c'est une réalité. C'est une juste réalité de Dieu. Quand vous chuchotez, le plus bas possible, hein, Dieu entend comme si le son était au maximum. Il n'y a rien qui échappe à l'oreille de Dieu. Oui. Et ce qui est effrayant, hein, c'est qu'on aura à rendre compte de toute parole qu'on aura prononcée. Hein. On pourrait dire « Vive les sourds! Hein. »« Vive les muets! Hein. » Mais c'est le Dieu qu'on sert, ça. Il voit tout, il entend tout. Il sait tout de nous. Ouais. Quel Dieu! Et Jérémie avait une juste réalité de qui était Dieu. Il savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Il savait que le ministère dans lequel il était appelé, il était incapable de l'exercer sans le secours de Dieu. Et il en est de même pour chacun de nous, frères et sœurs. Un pasteur est incapable d'exercer son ministère sans le secours de Dieu. Un chrétien est incapable de rester debout sans le secours de Dieu. Un chrétien est incapable d'obéir à la parole de Dieu sans le secours de sa parole, sans le secours du Dieu de la parole. Ouais. Et tout ça, c'est une question de grâce, frères et sœurs. Ouais. Et la fidélité de Dieu, ça fait partie, c'est un trait de son caractère. Dieu est fidèle. On peut compter sur sa fidélité. Ouais. On sert un grand Dieu, frères et sœurs. Quand nous traversons des moments difficiles, nous avons aussi besoin d'avoir la certitude que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Jérémie était encore capable de garder l'espoir lorsqu'il faisait face à une situation désespérée parce qu'il croyait en la fidélité de ce grand Dieu. Est-ce que vous croyez ce matin à la fidélité de ce grand Dieu? Vous me dites « Amen » maintenant. Comment concrètement dans votre vie ça se fait? Comment concrètement dans votre vie ça se réalise, ça, pour vous, que vous croyez que Dieu est fidèle? C'est facile de dire « Amen », mais concrètement dans notre vie, comment ça se réalise, ça, qu'on ait la certitude que Dieu est fidèle? Comment dans notre pratique au quotidien, ça se concrétise que Dieu est fidèle, frères et sœurs? Ouais. Eh bien, ça revient à une prière de l'apôtre Paul. « Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » Voilà. Ça veut dire que tu peux compter sur la fidélité de Dieu, t'en es certain. Ta vie est une vie pourrie pour l'instant. Tu marches dans les voies de Dieu. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Ouais. Parce que Dieu veut t'élever, mon frère. Dieu veut t'élever, ma sœur. Ouais. Et il veut t'élever parce qu'un jour, il veut se glorifier à travers toi. Autrement qu'il se glorifie maintenant. Ouais. Ouais. Des fois, il nous arrive un petit pépin, hein. Et on n'est même plus capable de prier. Et Paul dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, il est fidèle et juste. Ouais. Ce que Dieu cherche, c'est vous bénir à travers toutes les formes de circonstances que vous êtes appelés à vivre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Faisons nôtre en terminant la prière de Jérémie ce matin. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, frères et sœurs. Chaque matin. Le soir, vous vous couchez, le panier est vide, presque vide. Le matin, vous vous réveillez, il est rempli. Rempli. Ouais. Et je le répète, la grâce que Dieu vous réserve pour aujourd'hui, c'est pas pour demain. Et la grâce qu'il vous réserve pour demain, il ne vous la donnera pas aujourd'hui, c'est pour demain, frères et sœurs. Ouais. À chaque jour suffit sa peine. Oui. Oui. C'est ça la grâce de Dieu. Pourquoi il ne veut pas nous accorder les grâces qu'il nous réserverait pour demain? On ne sait même pas si on va être en vie. Chaque jour suffit sa peine. Et à travers ces grâces qu'il veut déverser dans nos vies, Dieu ne nous déçoit jamais. Amen. Oui. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel. Je le dis, l'Éternel est mon trésor, mon partage. Voilà pourquoi je veux espérer en lui. Oui. Est-ce que le Seigneur est ton trésor ce matin? Parce que là où est ton cœur, mon frère, là aussi est ton trésor. Quel est le trésor qui occupe ton cœur ce matin? Oui. Quel est le trésor qui occupe? Est-ce que le Seigneur occupe toute la place qui doit lui revenir? Oui. Oui. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est Jérémie. Hein? Je le dis, l'Éternel est mon trésor, mon partage. Voilà pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Hey, il y a une condition, là. Hein? Ouais. Il y a une condition, frères et sœurs. L'Éternel a de la bonté pour qui? Pour celui qui espère en lui. Et celui qui espère en lui, il marche dans la vérité. Pour celui qui le cherche, frères et sœurs. Oui. Il est bon d'entendre en silence le secours, la délivrance de l'Éternel. Frères et sœurs, frères et sœurs, Dieu n'est pas au bout de son amour, réconfortons-nous par ses paroles. Dans sa grâce, Dieu protège celui qui marche dans ses voies. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter le dernier cantique. Puis le suivant, ne crains rien. Non. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. 316, Antoine Ladoire.